Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale au Capi Service, en direct de Pullman Hotel de Kinshasa, sous vos applaudissements. Bienvenue dans ce programme. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des casques bleus qui marque les 75 ans des opérations de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde. Et la paix commence avec moi et le thème de la campagne lancée dans le cadre de cette célébration. À cette occasion, nous allons échanger aujourd'hui sur les réalisations de la MONUSCO en RDC dans le cadre du maintien et de la consolidation de la paix. Et on fera également le bilan du partenariat entre la MONUSCO et les institutions congolaises. Une grande équipe de Radio Okapi avec celle de la section Outreach de la MONUSCO contribue à la production de cette émission. Bienvenue à tous. Encore une fois, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Bien, célébration ce lundi 29 mai 2023 de la journée internationale des casques bleus qui marque les 75 ans des opérations de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde depuis sa création en 1948. La paix commence par moi est le thème retenu pour cette célébration. Depuis 75 ans, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies aident à mettre fin aux conflits, à protéger les civils, à faire avancer les solutions politiques et à assurer une paix durable. Cependant, elles sont confrontées à l'augmentation des menaces liées aux fake news, à la désinformation qui alimente la violence dirigée contre les casques bleus et les personnels civils de l'ONU. Alors, que faut-il retenir du travail réalisé par la MONUSCO pour le maintien et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo? Nous avons plusieurs intervenants que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors, je vais commencer avec Madame Altine Traoré de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Bonjour, Madame.
Bonjour.
Bien, parlez-nous des réalisations de la division des affaires politiques et qu'est-ce que vous faites dans le cadre du maintien et de la consolidation de la paix en RDC.
Merci beaucoup déjà de nous avoir invités pour cette émission. Alors, que fait la division des affaires politiques? Comme vous le savez, la règle en termes de consolidation de la paix, c'est avant tout la primauté du politique. Et je dis bien du politique, pas forcément de la politique. Les questions, pour qu'elles soient réglées durablement, elles doivent avoir également un traitement politique. Cela signifie que, à côté de mes collègues qui sont là, que ce soit la force, que ce soit la police, que ce soit les affaires civiles qui travaillent sur les questions à la base, toujours est-il que le règlement d'un conflit, pour qu'il soit durable, doit d'abord être traité politiquement. Donc la section des affaires politiques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit à différents niveaux. Premier niveau, elle agit pour appuyer les institutions pour qu'elles soient, qu'elles puissent fonctionner de manière cohérente. Donc, il y a déjà une section qui s'occupe de l'appui aux institutions. Donc, ça va être le Parlement, l'Assemblée nationale, qui suit également les élections, etc. La section des affaires politiques s'occupe également de résoudre les conflits par des moyens politiques et d'appuyer les questions de désarmement par des moyens politiques. Donc il y a une autre section qui agit au niveau régional et au niveau provincial pour appuyer des processus politiques, pour s'assurer que les solutions puissent être trouvées à ce niveau-là. Mais il y a un troisième volet qui est très important, qui est pour s'assurer que, une fois qu'un conflit est fini ou qu'une zone est apaisée, le conflit ne revienne pas. Et donc là, il s'agit plutôt de diplomatie préventive. Il y a donc une autre section au sein de la division des affaires politiques qui s'occupe de la prévention des conflits pour faire en sorte que, par exemple, comme vous le savez, la MONUSCO maintenant n'occupe plus que 3 provinces. Et donc toutes les autres provinces qui ont été libérées, s'assurer, et qui sont maintenant apaisées, s'assurer que le conflit ne revienne pas sous une forme ou une autre. Donc il y a une section qui s'occupe maintenant de gestion des conflits, prévention des conflits au niveau des zones qui ont été libérées. Et évidemment, dans les 3 provinces citées, il y a également des sections des affaires politiques qui sont là pour continuer à travailler avec les communautés au quotidien et aller au plus près des individus pour faire avancer. Alors, je m'arrêterai là. Merci.
Madame Altine, on va donner la parole à Monsieur Patrice Vahar du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Patrice, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez-nous des réalisations de votre section dans le cadre du maintien de la paix en République démocratique du Congo.
Je crois que la paix est l'un des droits fondamentaux de chacun d'entre nous. Et c'est une très bonne chose qu'au sein de la mission de la MONUSCO, il y ait toute une division qui s'occupe des questions des droits de l'homme. En fait, toute la mission s'en occupe, mais nous sommes le point focal. Je voudrais peut-être, avant de dire quelques-unes de nos réalisations, faire observer que les 75 ans des casques bleus coïncident aussi avec les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La connexion n'est pas innocente. En fait, il y a 75 ans, la promesse que nos ancêtres s'étaient fait, nous avaient fait, nous leurs petits-fils aujourd'hui, c'était d'avoir un monde qui est débarrassé des affres des deux guerres qui malheureusement ont endeuillé le monde, en leur faisant la promesse de faire en sorte que la dignité, la valeur humaine soit au cœur de toutes les actions. Aujourd'hui, les casques bleus sont le symbole le plus représentatif de cette volonté-là, de nous offrir à chacun d'entre nous, à nos enfants et à ceux qui nous entourent, la paix, qui est une réalité. C'est pour ça que vous voyez toutes les nationalités se succéder ici, portées par un seul idéal, celui de répondre à la question de leur contribution à la paix dans une société qui en a besoin le plus. Les droits de l'homme jouent un rôle majeur dans les trois piliers du mandat de la MONUSCO. Qu'il s'agisse de la protection des civils, nous ne faisons pas simplement que compter les victimes des violations, nous faisons beaucoup de prévention. Vous verrez à travers tout le pays, puisque la radio Okapi est représentée, écoutée partout, même au-delà de la RDC, que les officiers des droits humains travaillent aussi avec les autres composantes pour prévenir d'abord, pour sensibiliser autant que faire se peut, et ne faire le monitoring, comme on dit, la surveillance, que lorsque malheureusement les droits ne sont pas respectés. Dans tout ce qui concerne la démobilisation, le désarmement, pas seulement le désarmement des mains, mais également le désarmement des cœurs, les droits de l'homme sont également présents.
Voilà, les droits de l'homme, vous faites beaucoup de choses, on va les découvrir au fur et à mesure au cours de cette émission. Alors, fidèles auditeurs, nous parlons aujourd'hui des réalisations de la MONUSCO dans les cadres du maintien et de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. On va donner la parole à Madame Julia. Madame Julia Wickham, bonjour.
Bonjour et bonne fête à tous, merci.
Bien. Parlez-nous de la section, de ce que vous faites au niveau de la section des affaires civiles.
Hein, oui, voilà. Et la section des affaires civiles a une fonction clé dans la mission du lien entre la mission et la population, y compris les autorités. Et leur rôle est de renforcer les conditions sociales et civiques nécessaires pour consolider la paix. Une fonction clé aussi, c'est dans la coordination parmi les sections civiles de la mission. Et je dois dire aussi qu'en général, les affaires civiles pensent sentir leur présence, surtout au niveau local. Et sur le terrain, les affaires civiles conduisent les activités de suivi et évaluation de la protection civile avec, par exemple, des systèmes d'alerte précoce et les comités locaux de protection. De faire les rapports pour la mission. Et aussi sur le terrain, maintenant plutôt à l'est, les affaires civiles ont la responsabilité de coordonner avec les casques bleus pour la facilitation des descentes sur le terrain pour mener les activités. Et telles activités consistent d'analyse, prévention et mitigation du conflit inter- et intracommunautaire, la promotion des confiances dans les mandats de la mission et le rapprochement entre la population et les autorités locales. Et en plus, les affaires civiles contribuent à la restauration de l'autorité étatique. Et finalement, les affaires civiles jouent un rôle très important dans l'accompagnement de la société civile, afin d'élargir les espaces politiques et civiques pour leur participation à la prise de décision, surtout de la part des jeunes et des femmes. Et à Kinshasa, finalement, et les affaires civiles travaillent dans les communautés de chaque district. Et actuellement, nous sommes en train d'implémenter une série d'activités avec les jeunes sur la cohésion sociale pour réduire les risques de manipulation politique pendant la période électorale. Et ces formations comprennent les sujets de comment contrer les désinformations et les discours de haine, surtout dans les réseaux sociaux, ainsi que le tribalisme. Voilà quelques éléments essentiels du travail des affaires civiles. Je vous remercie.
Merci Madame Julia Wickham pour cette présentation. Sans plus tarder, on va donner la parole à Madame Mireille Laurier de la section genre de la MONUSCO. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Ravi de vous accueillir dans cette émission. Alors parlez-nous de votre section genre et de vos réalisations.
Merci beaucoup et merci effectivement de nous avoir associés à cette célébration de la journée du maintien de la paix. Par rapport au travail de la section genre de la MONUSCO, je crois qu'il est important de souligner d'abord qu'il s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO qui prévoit que les femmes doivent être impliquées, elles doivent participer de manière entière, de manière pleine, de manière effective dans tout ce qui est planification, donc des interventions de la mission et dans tout ce qui est activité sur le plan opérationnel. Dans ce cadre, la section genre travaille sur trois piliers principaux. Le premier est plus interne à la mission, donc c'est de s'assurer que toutes les sections, toutes les composantes de la mission mettent en œuvre tout ce qui est égalité des genres, agenda femme, paix et sécurité dans la réalisation donc, du mandat de la mission. Donc qu'il s'agisse du département des affaires politiques, nos collègues des droits de l'homme, des affaires civiles, mais aussi donc des composantes en uniforme, la force ou la police des Nations Unies. La section genre est là pour s'assurer en fait que nos collègues mettent en œuvre l'égalité des genres.
Merci beaucoup. Vous savez, la célébration c'est autour du thème « La paix commence par moi ». Vous allez prendre la parole pour nous dire aussi qu'est-ce que vous faites dans votre environnement pour contribuer à la paix, ce que vous faites pour la paix dans votre environnement. Avant cela, on va donner la parole au général Modi Bereté de la police des Nations Unies. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans ce programme. Alors, parlez-nous brièvement de ce que vous faites dans au niveau de la police, la MONUSCO, pour le maintien de la paix en RDC.
Oui, merci beaucoup pour cette question. Le travail de la police s'inscrit dans le mandat global de protection des civils de la mission de maintien de la paix. Et M. Kassim Ndiaye, qui était là pour l'ouverture, m'a demandé de bien vouloir le représenter et parler aussi de notre travail en termes de protection des civils, étant l'adjoint à la représentante spéciale chargée des questions de protection. Comme tout le monde le sait, le déploiement des missions de maintien de la paix est basé sur l'idée que, en déployant le personnel civil en uniforme et policier, c'est pour contribuer non seulement à arrêter les hostilités, mais aussi immédiatement pourvoir aux besoins des populations en ce qui concerne leur sécurité, donc leur protection. Et dans le cas très particulier du Congo, et comme vous le savez, le pays qui a eu à faire face à une forme de conflictualité avec un éclatement, je parle bien sûr du début des années 2000 avant bien sûr l'arrivée de la mission de maintien de la paix. Donc quand la mission a été déployée, c'était de faire en sorte que l'État du Congo soit déjà remis ensemble à travers, comme Mme Altine l'a dit, un processus politique, mais aussi à travers une présence militaire et aussi différentes autres présences qui permettent d'approcher les populations. Il est important pour nous de clarifier un peu la question de la protection des civils, d'autant plus que c'est l'élément du mandat sur lequel la mission de maintien de la paix est un tout petit peu tensée souvent. Parce qu'on dit, vous êtes là pour protéger les civils, et quels sont les résultats? Et puisque nous sommes là pour parler de résultats, et sur le plan conceptuel, il est très important de savoir que les Nations Unies ont divisé la tâche de protection sur la base d'une stratégie qui est appelée des trois tiers. Le premier tiers, il est quoi exactement? C'est ce que Julia vous a dit. Le premier tiers, c'est de créer les conditions du dialogue pour la protection, c'est-à-dire engager avec la communauté, engager la communauté dans les discussions pour leur propre protection et mettre en place des systèmes d'alerte. Je pense que quand on va arriver aux questions, on pourra développer davantage. Et le deuxième tiers de la protection, c'est effectivement de protéger contre des menaces imminentes. Et c'est sur ça que nous sommes très interpellés. Et nous sommes pas les seuls interpellés, nous sommes interpellés ainsi que les forces de défense, ainsi que les forces de sécurité congolaises. Cela veut dire concrètement que quand quelqu'un se sent menacé, et ils attendent, cette personne attend qu'il y ait une réponse. Donc les systèmes d'alerte sont bien, mais la réponse à l'alerte est encore mieux. Et qu'est-ce que fait la MONUSCO? La MONUSCO travaille avec les FARDC, la MONUSCO met en place des bases, la MONUSCO prodigue de la sécurité aux personnes déplacées, comme vous le savez, internes. Et puis, la MONUSCO, très concrètement, appuie les opérations des FARDC, y compris en partageant de l'information, mais aussi en mettant en place des centres de coordination. Donc, ceux qui sont très familiers avec Goma savent très bien qu'il y a des centres intégrés de coordination. Ceux qui sont familiers avec Beni savent très bien qu'il y a toujours des opérations conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. Maintenant, le troisième tiers de la protection, c'est de créer un environnement dit protecteur. C'est en réalité, en ce qui concerne la mission de maintien de la paix, accompagner tous les efforts du pays. Donc les efforts que vous faites en tant que leader, en tant que aussi gouvernement, pour que les questions de sécurité soient des questions qui soient placées au niveau stratégique. Cela parle des questions de réforme de la police, cela parle des questions de formation, ainsi que d'autres éléments qui concourent à créer une situation, un environnement tel que le citoyen congolais se sente mieux protégé d'abord par ses forces. Donc je vais m'arrêter là, juste dire que avec les questions on pourra approfondir et prendre aussi en considération la dimension transition, c'est-à-dire le départ de la MONUSCO dans cette discussion-là. Donc c'est un travail que la MONUSCO a fait avec la FARDC, avec la PNC et les acteurs civils pendant 2 décennies. À présent, nous sommes en train de discuter avec le gouvernement et les autres interlocuteurs sur l'avenir, c'est-à-dire tous les outils, instruments, savoir-faire qui ont été développés pendant ces 2 décennies, comment faire en sorte que le gouvernement et les acteurs congolais se les approprient pour continuer ce travail de protection, c'est-à-dire le travail de donner la sécurité aux populations. Je vous remercie de votre attention.
Bien, merci beaucoup mon général. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de l'hôtel Pullman de Kinshasa, émission spéciale à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Et le thème que nous abordons à présent, nous parlons des réalisations de la MONUSCO dans le cadre du maintien et de la consolidation de la paix. Vous savez, cette célébration se fait autour du thème « La paix commence par moi ». Alors vous allez aussi nous dire qu'est-ce que vous faites pour amener la paix, pour consolider la paix dans votre vie, dans votre environnement, dans votre quartier, etc. Alors on va recueillir 5 premières questions et ensuite on passera à une autre série. Tati Mapoukou est là avec le micro, si vous voulez vous exprimer, juste lever la main et on vous donne la parole. Bonjour monsieur.
Merci, bonjour monsieur le modérateur. Moi c'est monsieur David Boyenda Boussango. Je suis de la jeunesse espoir. En fait, j'aimerais premièrement remercier les intervenants pour leurs explications claires. Ma préoccupation s'adresse à tous les intervenants. J'aimerais savoir, après 75 ans de service de maintien de la paix dans le monde, et après avoir fait vous-même votre auto-évaluation, est-ce que vous-même pouvez vous dire que votre bilan est positif au travers le monde en général ou négatif? Et votre bilan au niveau de la RDC est positif ou négatif? Merci.
Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Germain Aboki, membre de la coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC. Ma question s'adresse au général. J'ai des petites questions. La première au général Patrick. Le secrétaire général de l'ONU a une fois fait savoir que le M23 avait une armée moderne que les forces onusiennes. Ce qui était interprété comme un aveu d'échec de l'ONU face au problème de paix dans notre pays. Et dans cette perspective-là, qu'est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent encore attendre des casques bleus? Et la deuxième question, c'est au droit de l'homme de l'ONU. Sous le régime Kabila, nous avons vu l'ONU distribuer des sanctions contre nos autorités politico- et militaires comme Pipin. Mais aujourd'hui, lorsque nous savons que le Rwanda est en train d'agresser la RDC qui menace la paix dans l'est de notre pays, on voit l'ONU garder le silence, aucune sanction, aucune condamnation contre les autorités rwandaises. Pourquoi cela? Pourquoi cette politique de double jeu? Merci.
Bien, dites-nous aussi ce que vous faites pour contribuer à la paix dans votre environnement, parce que le thème de la célébration, la paix commence par moi. Allez-y, Tati, il y a également des dames de ce côté, on a déjà pris deux hommes, on donne également la parole aux dames. Voilà, allez-y monsieur, et puis on va donner la parole de ce côté.
Je suis Georges Kinga, acteur social.
Oui, monsieur Georges.
Coordonnateur de l'ONG PDUDH, c'est-à-dire promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Quelle est votre préoccupation, monsieur Georges?
La première préoccupation vient d'être vidée, mais je voulais la renforcer. Après tous les discours, depuis la présence de la MONUSCO ici en RDC, avec tout ce que nous connaissons à l'Est, pensez-vous que le commun des Congolais a encore besoin d'écouter ces discours dès lors que, jusque maintenant, au moment où nous parlons, il n'y a pas de paix en RDC? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est de répondre à votre question. Qu'est-ce que je fais pour que cette paix commence par moi?
Par vous.
Mais moi, je pense que c'est une question qui est ambiguë. Ambiguë parce que vous parlez des solutions politiques. Tout le monde sait ce qui se passe sur le plan politique. Vous ne trouvez pas qu'à l'heure qu'il est, la solution est militaire. Mais cette solution qui doit être militaire, la RDC qui importe les armes, on apprend que les armes sont bloquées. Tout à l'heure, mon prédécesseur vient de le dire. La déclaration qu'a faite le secrétaire général des Nations Unies et qui a énervé tous les Congolais. Comment cette peur peut-elle commencer par moi, qui suis ici?
Donc cela veut dire que vous ne pouvez rien apporter
pour la paix? J'ai 15 ans d'activisme dans la défense des droits de l'homme. Donc je suis sur le terrain, je connais les réalités. D'en face, autant au sein du bureau congrès des Nations Unies aux droits de l'homme qu'au sein de la MONUSCO. Donc, j'œuvre, mais mes actions sont limitées.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Au Capi Service, nous sommes en direct de Pullman Hotel à Kinshasa, à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus. Tati, il y a les dames de ce côté. On va prendre quelques dames.
Bonjour, je suis Raphaël Kasséo, étudiant en LD économie à l'Université de Kinshasa. J'avais des préoccupations. La première s'adresse au colonel Bereté. Monsieur le colonel, ça fait 29 ans que la guerre a commencé et 24 ans que la MONUSCO est en République démocratique du Congo. Selon vous, pourriez-vous infirmer ou confirmer les résultats des enquêtes, des travaux de recherche de Monsieur Charles Onana, confrère Holocauste au Congo? Je m'adresse aussi à Monsieur Patrick Vara. Monsieur Patrick Vara, je ne comprends pas comment on a pu reconnaître le génocide rwandais qui a fait 800 000 morts Tutsis et Hutus confondus. Mais en République démocratique du Congo, il y a plus de 10 millions de morts et des massacres en continu, comme faire le massacre de Kishishe. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce dit la communauté internationale sur ces points?
Merci Raphaël. Bonjour madame.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation? D'abord, si vous pouvez vous présenter et ensuite poser votre question.
Merci pour la parole. Je suis Madame Annie Matundu Mbambi. Je suis la représentante régionale de WIF Afrique.
C'est quoi WIF Afrique?
C'est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.
D'accord.
J'ai des petites préoccupations. L'une, je vais l'adresser au général, je crois. Au début,
oui,
là.
Le général Bereté.
Le général Bereté. C'est la dimension transition avec la MONUSCO. J'aimerais savoir quelle est la place de la société civile dans cette dimension en général et particulièrement pour la femme congolaise. Ensuite, j'adresse la deuxième question à Madame Mireille du Bureau Genre. Vous avez donné les dimensions, les trois dimensions que le Bureau Genre s'occupe, mais je prends la dimension de la résolution 1325. Bientôt, nous allons avoir 23 ans depuis que cette résolution a été adoptée. J'aimerais savoir quelle est la nouvelle stratégie de votre bureau pour que la mise en œuvre soit réellement efficace et efficiente. Ce que j'ai fait pour amener la paix dans mon pays, je suis une activiste et militante de mon organisation, donc la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui est beaucoup plus vieille que les casques bleus. Parce que cette organisation vient de totaliser 108 ans. Donc vous comprenez, elle est beaucoup plus vieille que la casque bleue. Elle est implantée en RDC, cela fait 15 ans. Et nous travaillons pour la consolidation de la paix et nous militons réellement dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame. Oui.
Bonjour, je réponds au nom de Déborah Nyamungabo. Je suis point focal de Youth for Peace et je fais partie de la coalition 2250 qui est une résolution des Nations Unies. 2250 qui parle de jeunesse, paix et sécurité, c'est là où je fais mes actions.
D'accord.
Donc ma première question c'est aux affaires civiles. Pour le compte de Youth for Peace et de la coalition 2250, nous avons plus des actions avec la MONUSCO à l'est de la République qu'ici à Kinshasa. Nous avons déjà soumis un thème de référence au niveau du bureau général de la MONUSCO, tout en mettant en copie même les affaires politiques, mais sans réponse. Parce que la différence qu'il y a entre l'est de la République et Kinshasa, nous affrontons les Kuluna. Donc, il faut sensibiliser ces jeunes, il faut beaucoup de rencontres avec ces jeunes. C'est vrai que la vraie problématique, c'est la pauvreté ou le manque d'encadrement, mais pour notre travail, nous pensons qu'ils sont récupérables et qu'on peut aider ces jeunes à regagner leur famille ou à être utiles dans la société. Ce que je fais comme pour amener la paix dans mon pays.
Oui. Vous encadrez les Kuluna, c'est ça?
Oui, les jeunes, et en contact avec les Kuluna, bien sûr. Mais en même temps, je fais partie d'une synergie des femmes congolaises pour la paix. Et nous sommes là pour rencontrer les autorités du pays, pour parler avec eux, amener les questions que nous rencontrons au niveau de la communauté et parler avec ces autorités. Merci.
Merci. Madame Déborah, je pense qu'on est déjà à plus de 5 questions, Tati. On va donner la parole aux intervenants par rapport à toutes les questions et les préoccupations qui ont été soulevées. Je commence avec Madame Altine Traoré. Vous avez la parole.
Merci pour merci beaucoup et merci pour toutes ces questions. Alors il y en a beaucoup. Adressé directement aux affaires politiques, il y a la question du bilan pour savoir est-ce qu'il est positif ou négatif. Il y avait également éventuellement la question des solutions politiques ou pas. Et comme quoi il y aurait également une question sur un supposé silence des Nations Unies par rapport à la crise d'M23. En ce qui concerne le bilan, je pense que le représentant spécial adjoint dans son discours d'ailleurs vous a rappelé que certes nous recevons des critiques, tout n'est pas parfait, mais cependant nous tirons les leçons et essayons de faire mieux. En ce qui concerne la RDC en particulier, le général Modi l'a rappelé tout à l'heure, après la seconde guerre du Congo, le pays était quand même fortement divisé. La mission, elle est venue notamment, et elle a fait un travail quand même conséquent pour remettre ce pays ensemble, ce pays qui était quand même divisé en quatre. Donc il a fallu remettre ce pays ensemble, travailler avec les Congolais pour reconstruire les institutions, les renforcer, parce que les institutions fortes, c'est ça qui va vous permettre également de pouvoir consolider également la paix. Donc il y a ce travail qui est fait, c'est vrai que ça fait 20 ans, mais il faudrait regarder de 20 ans à aujourd'hui, où en était le pays il y a 20 ans, Et aujourd'hui, je suis contente d'entendre tous ces avis qui sont divers, qui sont, et ça prouve qu'il y a eu un énorme travail malgré tout qui a été fait. Donc, il y a quand même, je pense que les autres compléteront sur ce plan-là, et moi je me suis fixée sur l'aspect politique qui est de reconstruire les institutions, qui est de travailler sur des processus de paix, aussi bien au niveau régional, parce qu'il y a eu quand même des accords régionaux, et au niveau des provinces pour reconstruire complètement les institutions de ce pays-là. Maintenant, sur la question, un mot rapidement sur la question des solutions politiques et des solutions militaires. Il ne faudrait pas se dire que l'un doit exclure l'autre. Ce n'est pas comme ça, hélas, que ça marche. Solutions militaires, certes, vous vous rappellerez certainement qu'il y a un processus, par exemple, qui était en cours, qui est le processus de Nairobi, qui avait deux tracks, comme on dit, deux voies. Une voie militaire et une voie politique. Que ce soit celui-ci ou un autre, en général, quand il y a une voie militaire qui est suivie, il faut qu'à côté, on travaille également sur les solutions politiques. Simplement parce que aucun conflit ne se finit ailleurs qu'autour d'une table. Même s'il y a une victoire militaire, il va falloir négocier des termes à un moment donné. Donc, ce travail doit commencer depuis le premier jour également. Ça, c'est un des aspects. Le second aspect, c'est si on peut éviter la perte des hommes, la perte, la destruction sur le terrain, et réussir à résoudre le problème sans en arriver à la voie uniquement militaire, c'est des vies de sauver également. Donc les deux processus vont de pair. Il va peut y avoir la dissuasion ou l'offensive, mais il y a toujours à côté également des discussions qui ont cours pour s'assurer que on puisse éviter le plus de pertes humaines possible. Je m'arrêterai là parce que je crois D'accord. qu'il y a énormément de questions.
Il y a énormément de questions. Les autres intervenants vont également répondre. Monsieur Patrice, alors il y a des questions qui vous ont été adressées par rapport aux droits de l'homme. Vous avez la parole.
Je vais essayer d'être très succinct. Je parle très souvent trop, donc j'essaierai d'être très succinct. Peut-être que je vais décevoir certains de ne pas répondre point par point à toutes les questions, mais peut-être faire un ramassage global. La question qui nous a été posée, essayons de parler entre nous comme des humains. Je crois que c'est une conversation qui nous intéresse tous. Ça porte sur la vie des humains. La question qui se pose, c'est est-ce que on peut dire qu'on se sent mieux en sécurité, dans la paix, aujourd'hui, qu'il y a 75 ans, ou bien depuis que la MONUSCO est présente? Je donne simplement... D'abord, je dois vous dire que moi, je viens de la société civile. J'ai pour les gens qui ont la calvitie comme moi, et qui sont peut-être là, ou qui nous suivent en ligne, ils sauront que j'ai déjà beaucoup travaillé avec les activistes congolais, qui sont d'autres générations. Le président de l'actuelle commission des droits de l'homme, c'est un de mes promotionnaires, par exemple, mais ça, c'est une parenthèse. Pour dire que le premier point auquel on ne fait pas attention, maintenant, pour voir l'impact de la MONUSCO, c'est à ça que je vais en venir, c'est l'espace civique. Aujourd'hui, vous pouvez nous interpeller comme vous le faites, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec les dirigeants, souvent qui sont très impopulaires, qui ont subi des coups pour créer un espace où la voix de la femme compte, où le jeune peut parler. Il y a 2 mois, j'étais au Parlement et je rendais hommage à une de nos mamans ici, mais je voyais notre génération beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'a été à l'époque. Il n'y a pas très longtemps, parler de violation des droits humains n'était pas possible ici et partout sur le continent. C'est le premier point, c'est l'espace civique. Le second, c'est que malgré les difficultés que vous avez décrites, votre pays, la RDC, a de très bonnes relations avec la communauté internationale dans le domaine des droits humains. C'est pour cela que chaque année, même le président de la République, au mois de mars, était à Genève
pour s'adresser au Conseil des droits de l'homme, pour reconnaître qu'il y a des difficultés, mais que la RDC avance dans le domaine des droits humains. Parce qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui peut dire que lui a 100% de respect des droits humains. Donc c'est un bilan qui est partagé. Mais la MONUSCO ne le prend pas pour dire que ça c'est un de ses résultats. Si nous pouvons avoir un espace où ce qui ne va pas, on peut en parler, on commence la solution. Nous on crée le cadre pour que ça puisse se faire. La société civile est devenue plurielle. Les médias à travers lesquels, y compris la radio Okapi aujourd'hui, dont nous nous exprimions, nous autres, hein, les jeunes, excusez-nous, mais nous autres qui sommes nés juste après les indépendances, on sait qu'on vient de très loin. C'était pas possible de défier l'autorité comme on le fait à travers les radios libres qu'on le fait aujourd'hui. Mais je ne suis pas en train de dire que tout va très bien. Je suis en train de dire que nous avons une marche. Et elle est très importante. Je vais terminer là. J'ai promis ne pas être très long, mais le sujet est très important.
Oui.
Quand on essaie d'apprécier, est-ce qu'on avance? On essaye à travers les programmes, là, ma sœur des affaires civiles l'a dit, ce sont des actions dont l'impact ne se mesure pas dans l'immédiateté, comme une intervention militaire, par exemple, mais c'est autant important que l'autre aspect qui est l'indicateur d'appréciation, de créer un espace où les questions liées, on n'en parle pas souvent, à l'accès de la femme à la propriété foncière, au débat des questions d'héritage sur la terre qui se passe au sein des communautés où ce n'est pas des conflits armés, d'accord, mais où les gens n'existent pas.
Patrice.
Il y a tout ça, mon frère. Voilà, je crois que c'est important
de
se donner cette opportunité. Je vais m'arrêter là pour l'instant, puis on revient pour la suite.
Merci beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Madame Julia Wickham, vous avez la parole. Vous êtes de la section des affaires civiles.
Oui, merci encore une fois. Et donc moi, je voudrais prendre la sixième question et pris les premières deux questions. Et je commence alors avec Madame Deborah, qui a posé les questions par rapport aux jeunes et surtout à les phénomènes de Kaluna, par exemple ici à Kinshasa. Et comme j'avais dit, les affaires civiles travaillent beaucoup au moment avec les jeunes, pour les accompagner et à faire leur contribution dans tous les discours pour assurer des élections paisibles et pour réduire les risques de violence par rapport autour des élections. Et c'est un rôle très important. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à base de tout le travail que la mission fait ici au Congo, c'est le partenariat entre la mission et le gouvernement congolais. Nous encourageons les autorités de fournir les services de base, parce que aussi le manque de services de base peut conduire au conflit, et d'assurer la sécurité. Donc un exemple du travail de la mission dans lequel les affaires civiles ont été très impliquées, c'est la promotion du gouvernance de sécurité locale, qui a le rôle de unir tous les éléments de la société, des communautés locales, et de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour maintenir d'abord la sécurité. La sécurité, c'est la responsabilité primaire de l'État. Ce n'est pas la responsabilité primaire d'une mission de maintien de paix. C'est partout comme ça dans le monde. Et je voudrais vous assurer qu'on commence avec les leaders jeunes. Encadrer, par exemple, les Kaluna directement, ce ne sera pas le cas. Mais nous n'aurions pas les ressources de faire ça.
Ouais.
Oui, nous sommes très conscientes de ce phénomène. Nous encourageons les jeunes pour voir ensemble avec leur communauté comment on peut faire face à ce problème. Et puis, les premières deux questions pour le bilan positif ou négatif. Moi, je pense que je suis dans la mission depuis presque 7 ans.
Et j'ai travaillé à l'Est, j'ai travaillé 3 ans et demi au Tanganyika. Et juste après mon arrivée, il y avait un escalage du conflit entre les Bantous et les Twa. Et ce que nous avons fait au niveau local, c'est, ça a eu beaucoup d'impact. C'est-à-dire, on a eu un programme et d'activité d'installer les barazas dans chaque territoire de la province de Tanganyika, et basé sur le mécanisme traditionnel swahili de résoudre les conflits. On accompagnait les communautés très très prochement, installer ces comités et leur donner les ressources de le faire. Mmh. Je pense que la mission en général, peut-être nous-mêmes, nous devrons faire plus pour communiquer les bons résultats que nous avons eus. Peut-être c'est à nous de penser comment nous pouvons mieux faire ça. C'est la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup la Radio Okapi qui fait beaucoup de ce travail pour nous. Et donc j'arrête ici. Merci.
Merci Madame Julia. Nous parlons des réalisations de la MONUSCO dans les cas du maintien et de la consolidation de la paix à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus autour du thème « La paix commence par moi ». Bien, je vais donner la parole à Madame Mireille Laurier de la section genre, vous pouvez répondre aux questions qui vous ont été adressées.
Merci beaucoup. Et je pense que je vais toucher particulièrement à deux questions. Et je crois que les deux ont été soulevées par Madame Matundu. La première, c'est concernant la mise en œuvre de la résolution 1325 et les stratégies de la MONUSCO pour mettre en œuvre ou appuyer la mise en œuvre de cette résolution de manière effective. Et je voudrais commencer peut-être déjà en s'éloignant un peu de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO pour dire que sur le plan mondial, les études montrent que au rythme actuel, par rapport à ce qui est fait en termes de participation et leadership des femmes, d'autonomisation économique des femmes, mais aussi de violence basée sur le genre, nous sommes à 300 ans de l'égalité des genres. Donc nous sommes encore loin de façon globale de l'égalité des genres que nous défendons, que nous avançons. Néanmoins, par rapport à la résolution 1325, je crois qu'il est clair aussi que même si le chemin reste long vers une mise en œuvre effective, beaucoup a déjà été fait. Et je voudrais juste prendre un exemple clé qui concerne la participation des femmes au processus de paix. Il faut savoir que depuis 2000, la représentation des femmes dans les processus de paix à différents rôles, à différents niveaux, a progressé. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun processus de paix qui est dirigé, coordonné ou alors co-dirigé, co-coordonné par les Nations Unies qui n'inclut les femmes. Donc ça veut dire que c'est déjà une règle au niveau des Nations Unies. Il n'y a plus aucun processus de paix duquel les femmes seraient absentes. C'est déjà une règle, c'est déjà un progrès. Donc sur cette base, concernant la MONUSCO et la section genre en particulier, nous continuons d'appuyer le gouvernement congolais, mais aussi les organisations de la société civile, notamment les organisations féminines, dont la mise en œuvre des différents piliers de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. En matière de participation, par exemple, et participation au processus de paix, je voudrais dire qu'à l'Est, nos collègues, et avec les collègues des affaires civiles, les collègues des affaires politiques, ont réussi à mettre en place ou sur pied un réseau de médiatrices. Et jusqu'ici, on arrive à compter plus de 400 femmes qui ont été formées, qui sont actives, plus ou moins actives dans leur communauté pour prévenir les conflits en faisant la promotion de la cohésion sociale, en luttant contre tout ce qui est désinformation, mésinformation, mais aussi en réglant des conflits communautaires. Donc elles sont actives, elles sont sur le terrain. Par rapport à la protection, les collègues aussi travaillent avec les acteurs de protection de la MONUSCO et aussi les acteurs nationaux pour non seulement préparer des cartes de zones à risque de violence pour les femmes et les filles, et oui, ces cartes sont transmises à nos collègues de la force, de UNPOL, mais aussi des FRDC et puis de la police nationale congolaise pour s'assurer que les femmes, les filles, les communautés soient mieux protégées contre les violences.
D'accord. Donc,
est-ce que je pourrais ajouter un dernier élément qui est en fait très lié au processus actuel? Donc, allez-y. C'est le processus de PDDRCS. Donc, en termes de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et communautaire, il faut savoir que nos collègues sont également impliqués dans l'opérationnalisation de ce processus. Et la semaine dernière, les collègues de Bounia ont visité un site d'ex-combattants pour parler aux ex-combattantes, aux femmes anciennement associées au conflit armé, pour évaluer leurs besoins et s'assurer que dans la mise en œuvre de ce programme, leurs besoins soient particulièrement pris en compte. Donc ce sont là des exemples que je donne par rapport à ce que nous faisons pour une meilleure mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Merci beaucoup.
Merci Madame Mireille. Major Patrick Sabag, la force de la MONUSCO, vous avez la parole.
Ok, donc je vais répondre aux questions de M. David, M. Germain, puis M. Georges. Donc, les trois premières questions. Donc, vous comprendrez qu'en tant que militaire, c'est difficile de parler de victoire, parce que vous savez qu'il y a un dicton qui dit qu'à la guerre, il n'y a pas de gagnant. Donc, cependant, on va vous donner des exemples tels que vous avez voulu. Donc, premièrement, par rapport au M23. Le M23, nous sommes en ce moment en cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu n'est pas arrivé par magie. Il y a eu des actions concrètes qui ont été établies entre le FARDC, nos partenaires, ainsi qu'avec la MONUSCO, pour justement pousser le M23 vers un cessez-le-feu. Dans l'éventualité de réussir, comme ma collègue vient de dire, le DDR. Succès, d'autres succès, ok. Donc, c'est difficile de parler de succès parce qu'à MONUSCO, depuis le début de cette mission, nous avons au-delà de 400 décès. Il s'agit de 400 hommes et femmes casques bleus qui ont quitté leur pays sans le savoir pour la dernière fois, qui ont embrassé leurs enfants sans le savoir pour la dernière fois, pour venir servir un pays autre que le leur. Vous voulez parler de succès? Eh bien, notre simple présence à l'Est, il y a au-delà de 70 000 déplacés internes qui sont colocalisés à côté de nos bases. Notre simple présence atténue l'ennemi de faire de la violence envers ces déplacés. Il y a également tout ce qui est succès en termes d'entraînement avec nos partenaires, tout ce qui est succès en termes de succès de soutien logistique. Donc, juste dans le dernier trimestre, pour vous fournir des chiffres concrets, nous avons partagé au-delà de 8000 litres de diesel. Nous avons réparé des véhicules ambulanciers du FARDC. Nous avons déplacé leurs officiers partout à l'Est pour favoriser les opérations. Nous avons à Goma, tel que mon confrère l'a mentionné, nous avons établi un centre de coordination conjoint des opérations entre nos partenaires et nous-mêmes. Ce sont des succès qui vont mener à une victoire plus grande. Je peux aussi vous parler rapidement de notre drone et de tout le partage d'imagerie et la capture de données que nous avons prises sur l'ennemi, que nous avons partagé avec nos confrères dans l'éventualité de la planification conjointe de futures opérations à l'Est. Vous me parlez souvent du M23, mais je vous rappelle qu'au Congo, il y a au-delà de 100 groupes armés qui créent partout la misère. Merci.
Merci beaucoup, Major Patrick Sabat, pour cette intervention. Alors, on va prendre peut-être le dernier intervenant parce qu'on me fait signe il y a plus beaucoup de temps. On va terminer cette première partie de l'émission et on prendra le deuxième panel. Général Moudi, vous avez la parole.
Oui, le mien, je pense, est beaucoup plus facile puisqu'il s'agit juste de compléter ce que les collègues ont dit. En venant précisément à des questions comme Georges l'a posé, faut-il encore écouter ce narratif, ce discours? Moi, je souhaiterais juste rappeler ici, parce qu'on a là des étudiants, on a les femmes leaders, et on a différentes représentations de la société congolaise. Et nous savons tous que les déploiements de maintien de la paix, puisque nous parlons de maintien de la paix, sont basés d'abord sur une certaine forme de conditionnalité. C'est des missions qui appartiennent ou découlent de la volonté des États membres des Nations Unies, et plus particulièrement à travers des mandats qui sont établis par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc vous savez autant que moi qu'il y a beaucoup de frustration par rapport au libellé des mandats, par rapport aux objectifs qui sont recherchés ainsi que les moyens pour les atteindre. Dans ce même cadre, le mandat ne suffit pas. Il y a des ressources à articuler, à mettre en place. Ces ressources, c'est des ressources financières, c'est des moyens militaires logistiques, mais c'est aussi des moyens humains. Le major l'a dit tout de suite, il est officier canadien. Moi-même qui vous parle, je suis officier du Mali, un pays qui est aussi en prise à des difficultés. Et au Mali, j'ai aussi des officiers congolais qui sont déployés. Nous sommes tous membres des Nations Unies. Et les Nations Unies ont trouvé comme instrument, quand il y a des perturbations, d'envoyer les missions de maintien de la paix. Mais il faudrait, Georges, qu'on regarde ensemble l'histoire. Parce que au début, on parle de 75 ans, 75. Les missions de maintien de la paix étaient déployées d'abord pour séparer deux pays membres des Nations Unies qui étaient en belligérance. Donc c'était un cadre de conflits internationaux. Et progressivement, nous avons évolué vers des missions qui sont systématiquement déployées au sein des États membres, c'est-à-dire où il y a des conflits de nature interne, et qui amènent avec eux, ces conflits-là, plusieurs formes de complexité. Et complexité en déployant la mission, Mme Martinelli l'a dit, où on doit enclencher un processus politique interne, ce n'est même pas international, entre les enfants du même pays. La complexité, c'est être armé dans un environnement où on doit être non seulement impartial, mais aussi faire de son mieux pour promouvoir le dialogue, ça a été dit ici, entre les différents protagonistes, etc. Et la complexité aussi, c'est cette évolution très moderne de la nature, de la conflictualité au sein de nos États membres. Je t'ai dit que je viens du Mali, je viens du Sahel, il y a une mission de maintien de la paix chez moi, et fondamentalement cette mission est en prise avec ce qu'on appelle le terrorisme. 75 ans, il y a 75 ans, quand on parlait de maintien de la paix, on ne pensait pas qu'un moment de l'histoire, on allait déployer des forces de maintien de la paix, des casques bleus, dans des conditions telles qu'on le dit aujourd'hui, où il n'y a pas de paix à maintenir. Parce qu'il y a de l'insurrection, il y a des éléments de mouvements terroristes, etc. Comme c'est aussi le cas de la complexité en RDC, où non seulement il y a cette prolifération de groupes armés, mais il y a eu, vous le savez très bien, des incursions de la LRA au nord, il y a les ADF qui sont présents, etc. C'est la même situation en Somalie, aujourd'hui, où nous avons un engagement de l'Union africaine qui est là, mais où la conflictualité est de nature très très complexe. Donc en dépit de tout cela, de ces complexités, de la dimension politique et de la dimension des ressources, il faudrait quand même que nous regardons ensemble quels sont les progrès et les résultats qui ont pu être faits. Et on ne reviendra pas suffisamment là-dessus. Ici, il y a eu un processus politique, vous vous rappelez bien San City et ailleurs, et vous vous rappelez du gouvernement de transition qui a été mis en place, accompagné par les Nations Unies, les différentes initiatives de DDR qui ont eu aussi une composante de rapatriement de combattants étrangers qui étaient sur votre sol en dizaines de milliers, et tout cela, je pense que c'était des processus que les Nations Unies ont accompagné. Et les Nations Unies continuent d'accompagner, ça a été dit aussi ici, les nouveaux processus comme la mise en place par le gouvernement du PDDRCS. Et PDDRCS, il ne faut pas le sortir de son contexte, et aussi ça répondrait à la question de David et de Germain par rapport au M23. Et le président, le gouvernement a décidé qu'il va mettre un programme, inviter toute la jeunesse qui a les armes à rendre les armes et qu'on s'engage définitivement dans ce processus de paix qui est soutenu par un processus de dialogue. La mission de maintien de la paix, la section politique, a accompagné pleinement ce processus-là. Le DDR et les autres agences des Nations Unies ont accompagné ce processus-là jusqu'à ce que, naturellement, il y ait eu éruption du M23 à l'Est, amenant encore une dimension à la conflictualité alors qu'on était en train de parler de processus de DDR. Et le commentaire par rapport au M23, commentaire plus particulièrement par rapport à ce que Mme Keïta a dit, ce que Mme Keïta a dit, c'est ce que je disais un peu plus haut. Le message de Mme Keïta en disant que le M23 était très armé, c'était un message pas aux populations, c'était pas un message pour décourager les FARDC, c'était un message aux membres des Nations Unies, plus particulièrement au Conseil de sécurité. C'est-à-dire, vous nous avez donné un mandat de protection des civils. Vous avez une évaluation de situation où il y a des groupes armés qui sont congolais et qui sont ici, et nous avons, avec le gouvernement, engagé des discussions avec ces groupes, et soudain, il y a une irruption d'une nouvelle forme de conflictualité avec un acteur qu'elle a estimé, sur la base de ce que la force dit, ce que nous avons observé, qui était un peu plus puissant en termes d'armement, etc., donc qui était un peu plus différent de ce que nous avons et qui venait en fait en rupture avec ce qui se faisait. Donc c'est pour dire que le message, je pense, s'adressait à ceux qui donnent le mandat, de dire que
il faut les moyens pour faire face à la nouvelle forme de menace.
Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour nos panélistes? Madame Aline Traoré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Merci à Monsieur Patrice Vahar, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Madame Julia Wickham, des affaires civiles. Madame Mireille Laurier, Monsieur Patrick Christian Sabac. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les encourager très fort par nos applaudissements ?